France Culture.
Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon.
Fanfare, une histoire en marche.
Comme ça, c'est un peu lancinant, si vous voulez.
Fanfares et fanfarons aux Beaux-Arts. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Benjamin Huch.
La fanfare, c'est physique. On joue sans compter, debout sur ses deux pattes, à se faire bousculer par un public joyeux ou indifférent, sous un soleil brûlant ou dans le froid. On joue à n'en plus pouvoir, parfois à se faire éclater la peau des lèvres et le plus souvent sans partition. Alors il y a des couacs. La fanfare des Beaux-Arts ne redoute pas les fausses notes. C'est le propre du genre, c'est inévitable. L'excès fait sa beauté.
Nées dans l'enthousiasme de l'après-guerre, les premières fanfares étudiantes se sont créées entre le boulevard Saint-Germain et la Seine, dans les ateliers d'architecture de l'École des Beaux-Arts à Paris. Dès leur début, elles parodient les fanfares militaires en détournant leur code sur un mode humoristique. Leur réputation dépasse très vite les limites du quartier latin pour fleurir dans les écoles régionales d'architecture. En 1968, tout vole en éclats, mais les fanfares résistent au vent de la révolution. Elles s'épanouissent sur les pavés et au fil des années, renouvellent le genre. Aujourd'hui, une petite trentaine de fanfares des Beaux-Arts sont en activité en France. Souvent déguisés, leurs musiciens investissent la rue et déambulent dans un esprit résolument festif et décomplexé. D'ailleurs, entre fanfarons circule cette blague. Savez-vous pourquoi les fanfares avancent en jouant ? Pour s'éloigner du bruit ? Alors faites du bruit pour les fanfares.
On est chez vous, Pierre-Édouard Calonni.
Oui, chez moi, qui était un ancien atelier de mécanique. Alors évidemment, quand j'ai acquis cet atelier il y a 25 ans, ça ressemblait pas tout à fait à cela. Mais en gros, ça l'était quand même, parce que j'ai voulu garder l'esprit du lieu. Mais bah oui, il y a quand même des travaux pour transformer un atelier pour quand même un logement décent. Et je crois qu'il est plutôt agréable et confortable.
Et puis, au mur, vous avez accroché des instruments de musique. On peut commencer par les deux, là, qui sont juste au-dessus de nous.
Vous avez deux cornets à piston, qui sont des instruments phares dans les fanfares, justement. Donc, le cornet à piston, bah, c'est l'instrument aigu avec la trompette. Hein, c'est le soprane, finalement, des cuivres. Et ensuite, vous avez des trombones à piston. Quelques basses, dont le vrai nom est le saxhorn. Hein. Et puis, vous avez un sous-bassophone. Hein, c'est le maître des lieux avec ses 18 kilos, et qui est l'instrument que je porte et joue depuis maintenant un certain temps.
Et alors, j'aimerais bien que vous le preniez en main.
Oui, ouais, je vais le laisser sur son pied, il est bien. Hein,
c'est énorme.
Alors, le sous-bassophone en général, c'est quoi en fait? Le vrai nom du sous-bassophone, c'est le sousaphone de Philippe Sousa, compositeur américain, qui a écrit énormément de marches. Ça, les Américains sont très forts dans les défilés. Au départ, si vous voulez, c'est donc la contrebasse de la fanfare ou de l'harmonie. Et au départ, il y avait des hélicons. Les hélicons sont des instruments que vous portez sur votre épaule et dont le pavillon est dirigé vers le haut. Et Sousa a trouvé que le son était un peu dispersé. Donc il a pris l'hélicon, il l'a un peu tordu, si je peux me permettre, pour ramener le pavillon vers l'avant. De manière à ce que, quand vous aviez une ligne de sous-bassophone à l'arrière de 80 musiciens, les autres ne pouvaient que marcher au pas ou au swing des sous-bassophones. Donc il a créé cet instrument, au début du XXe siècle, et qui a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de fanfaron, un gros son. C'est-à-dire quand on peut se faire entendre de tout le monde si on décide de vraiment d'envoyer du jus dedans. Voilà. C'est le plus grave de la famille des cuivres.
Vous nous le feriez entendre ?
Oui. Si vous voulez jouer longtemps, il faut jouer d'abord doucement au début, pas trop fort, pour pas, comme on dit, nous, se casser les lèvres. En fait, cet instrument, vous jouez, c'est d'abord le ventre qui travaille, hein, ce qu'on appelle la colonne d'air, faites une pression. Et ensuite, c'est avec les lèvres, si vous voulez, que vous allez articuler les notes que vous faites, avec les pistons, bien entendu. La fanfare des Beaux-Arts a pas inventé un genre musical, mais a poussé un genre musical, qu'on appelle chez nous la pompe, c'est un mot, qui consiste à jouer le temps et le contretemps. Donc le temps était joué par le tuba, le contretemps joué par les basses. Alors, schématiquement, ça fait pompa, 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 ce qui fait swinguer. Alors derrière, vous avez une photo, une pochette de disque d'un concours de fanfare qui a eu lieu en 1989, gagné par une fanfare à laquelle j'appartenais à l'époque. Les Sept Mercenaires des Beaux-Arts. Et cette fanfare a commis aussi quelques disques, a gagné quelques concours de fanfare. Et là, c'était son dernier. Elle avait décidé de faire quelque chose d'un peu grandiose. Le thème du concours était « Qu'un son impur abreuve nos sillons ». C'était pas le sang, mais le son. Et nous avions nous fait un thème sur le défilé de la place Gros Rouge, d'où cet immense drapeau. On est très en hauteur, déguisé en apparatchik russe et en officier militaire soviétique de l'époque, avec un drapeau rouge frappé de la faucille et du tire-bouchon. Symbole bien connu, hein, qu'on voit partout dans le monde maintenant, évidemment. Et comme dernier cadeau, nous avions fait passer un éléphant rose sur scène, juste à la fin du morceau. Enfin, voilà.
Monsieur Callot ou Pierre-Édouard Calogny, il y a toujours beaucoup d'humour dans les fanfares des Beaux-Arts.
Ah, je veux dire que c'est d'abord ça qui l'emmène, sinon on ne va pas vous dire que c'est la musique. Ce serait faire rire tous les musiciens qui se respectent. Et je dirais même que les fanfares des Beaux-Arts sont un peu nés contre la musique.
Il faut jouer fort, il faut jouer fort.
Ah ben, c'était d'ailleurs le maître mot d'une des premières. Alors, faux, c'était la force des choses. fort certainement. D'ailleurs, le premier maître mot d'une des plus grandes fanfares qui a été créée dans les années 50, c'était l'amour du bruit. Et il disait que la musique actuelle n'était plus un remède, il fallait lui redonner de la vigueur et de la force. Donc ça permettait, je dirais, aux fanfares de faire fi de toute remarque musicale quand on venait leur chercher des poux sur leur sillon, qui n'étaient pas toujours très brillants. Hein. Beaucoup de gens, même de fanfares, disent « Écoutez un disque des fanfares des Beaux-Arts, est-ce que c'est vraiment intéressant ?»
Il y a cette petite aquarelle là que j'aimerais bien que vous nous décriviez.
Alors, cette petite aquarelle, elle est. C'est un copain, fanfaron aussi, architecte, fanfaron, merveilleux cuisinier, surnom de Blaireau, qui fait des aquarelles. Et elle représente en fait un bistrot parisien qui s'appelle L'Assignia, qui est un peu notre père, festif, notre QG, l'endroit où il y a presque une fanfare tous les soirs qui y répète, dont la mienne, j'allais dire actuellement. Et tout fanfaron de province qui vient à Paris viendra à L'Assignia pour essayer de trouver et réussir à trouver un fanfaron présent. C'est le dernier bistrot qui nous reste dans le quartier, parce que le quartier qui était le quartier de l'École des Beaux-Arts a été un quartier où qui n'était pas celui qui est aujourd'hui, plein de galeries d'art ou de magasins de vêtements, de mode plus ou moins. Il y avait beaucoup de bistrots. Plein de bistrots recevaient des fanfares et je dirais que chaque bistrot était même quelquefois le QG d'une fanfare. C'était même des lieux où on ne pénétrait pas comme ça quand on ne faisait pas partie de la même fanfare.
On est à Paris, dans le 6e arrondissement, au café La Signage, juste en face de la Monnaie de Paris, rue Guénégaud, en compagnie de Gérard, le patron.
Voilà,
si on devait décrire un peu votre lieu, parce que c'est un vrai café Parigot.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Disons qu'il est dans son jus, quoi. Il est hors temps, parce que c'est un peu un bistrot un peu disparate, parce qu'il y a des sièges en moleskine qui ne vont pas, par exemple, avec le comptoir en bois et tout ça, mais enfin, c'est quand même agréable. Le tout fait que c'est... on s'y sent bien.
C'est quoi cette histoire avec les fanfares?
La fanfare, ça marque ma vie en fin de compte, parce que depuis que je suis ici, j'ai toujours vécu un petit peu en symbiose avec les fanfares. C'est eux qui ont rythmé ma vie un petit peu tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, voilà. C'est des fanfares qui répétaient ici régulièrement, dans la cave. Et des fois, comme ils disent, ils jouaient en surface, c'est-à-dire qu'ils jouaient ici là, pour que tout le monde puisse les entendre. Avec leur public à eux.
On n'est pas loin de l'école des Beaux-Arts ici.
Il y a l'école des Beaux-Arts qui est donc sur le quai Malaquais. Et là, il y avait la grande messe des Beaux-Arts, l'école d'architecture Paris-La Seine, qui était rue Jacques Callot. En fin de compte, c'était les ateliers. Maintenant, qui n'existent plus.
Là, je vois que vous avez une petite pancarte là accrochée au-dessus du bar.
Oui.
Depuis décembre 1984, voilà. L'IRCAM des Beaux-Arts.
Voilà, exactement. Alors l'IRCAM. C'est un petit peu par rapport à l'IRCAM de Pierre Boulez, vous savez.
Sauf que là, c'est écrit I-R-K
exprès,
à accent circonflexe M.
Voilà, exactement, sinon c'est C-A-M. Voilà. Et parce qu'il y a Bat qui avait entendu, donc il jouait pour la première ou deuxième fois, je ne sais pas, et il a dit, c'était tellement mauvais, il a dit, on se dirait l'IRCAM. Enfin, alors, ils ont gardé le nom.
Toujours moqueur, hein, les fanfarons des Beaux-Arts.
Bonjour.
Bonsoir. Comment on vous retrouve, Pierre-Édouard?
À Boulez, je voulais dire, parce que le pauvre Pierre Boulez n'a jamais été au courant de ça.
Les fanfares à l'origine, hein, jusqu'à au moins 68 et même un peu plus tard, portaient le nom de la rue dans lequel était l'atelier. Donc la fanfare Léon Malaquais, elle portait le nom du quai Malaquais. Pourquoi Léon? C'était le prénom du patron du bistrot qui était à côté, donc elle s'appelait Léon Malaquais. Il y a eu comme ça Honoré Champion, il y a une petite place Honoré Champion à côté de l'école, il y a eu une fanfare Bonaparte, il y a eu une fanfare Visconti, rue de Bussy, la fanfare Archibald Bussy, et rue Jacques Callot, du nom d'un graveur, et Octave, parce que le prénom allait bien, et ça a été trouvé par un homme de radio d'ailleurs, monsieur Thévenot, qui a d'ailleurs aidé la fanfare Callot à faire ses premiers disques.
À quel moment vous avez commencé à accueillir des fanfares dans votre cave, Gérard?
On va dire depuis les années 80, disons.
T'as rangé la cave, ouais.
Oui, j'ai rangé la cave.
Alors ça y est, les membres de la fanfare des Charles Léon sont tous arrivés. Et il s'apprête à descendre dans la cave de La Signa pour la répétition. Alors ce qui est très particulier, c'est qu'il faut passer derrière le comptoir. Et là, on tombe sur une porte de garde-manger sur laquelle il est inscrit « Entrée des artistes ». Hop, on l'ouvre. Et puis juste derrière, il y a une échelle de meunier bien raide qui mène à la cave.
Les côtés. Et les quatre fers en l'air.
Ouais, il y a pas de directeur.
Qui est-ce qui dirige?
C'est Kiki.
C'est qui parle?
Avec personne. Tout le monde.
T'as ton embouchure, Calo?
Il paraît qu'on vous surnomme Grincheux, pourquoi?
Vous comprendrez bientôt. C'est souvent ce que je dis aux gens, viens faire une répète avec moi, tu comprendras.
Un truc assez intéressant, c'est que il y a une tradition des fanfares, c'est que nous avons tous des surnoms.
Alors c'est quoi le vôtre?
Baron.
Baron. Et d'où ça vous vient?
Du fait que j'étais bien élevé. Et que dans les fêtes les plus torrides, j'arrivais en deux papillons et je me tenais convenablement, même très tard.
Comment vous appelez?
Marc-Antoine Florin. Je suis architecte honoraire, comme on dit, parce que je suis un heureux retraité.
Dans notre petit cirque ambulant, il y y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon.
Comment vous avez rejoint la fanfare?
Eh bien, la fanfare m'a rejoint. J'étais étudiant en architecture. Un soir, on sonne à ma porte, j'ouvre, on me met un tuba entre les mains et on me dit « La répète, c'est jeudi, amène ta bouteille et pour le tuba, tu nous dois 1200 balles. »
C'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça.
Ça s'est exactement passé comme ça. Je me suis retrouvé avec un radiateur entre les mains et c'était le principe de la cooptation. On choisissait les gens sans vérifier s'ils étaient passés par le conservatoire. Et les fanfares d'archi sont en fait vraiment des fanfares d'amateurs absolus, avec un mélange dès le début entre architectes, ingénieurs, les fanfares pistons, et le reste du monde, c'est-à-dire universitaires, etc. Et nous avons très honorablement même un facteur de la poste parmi nous, donc retraité aujourd'hui. Mais donc, là, les Charlots, c'est une fanfare composite depuis sa naissance. Et elle accueille, alors qu'il n'y a bien sûr aucune charte, aucun protocole. Il y a des gens qui peuvent être nos amis pendant 30 ans et les rester. Et il y a des gens qui arrivent et qui, de manière fulgurante, se retrouvent à être invités à venir jouer dans la cave de Gérard un jeudi soir. Personne ne sait pourquoi ni comment. Et c'est ça aussi une merveille de ces fanfares, finalement peu organisées. Si une relation se fait, eh bien, c'est que c'était le moment et que c'est bien comme ça.
Je vais être très franc. Les étudiants qui rentraient aux Beaux-Arts étaient en général des étudiants issus d'une classe bourgeoise. D'abord parce que ça paraissait, je dirais, pour les gens de la société ouvrière ou paysanne, ça paraissait totalement inimaginable d'envoyer un jeune faire 8 ans d'études à Paris. Il y avait beaucoup de fils d'architectes, déjà, qui venaient faire l'architecture. Le fait, par exemple, que tous les fanfarons portaient un surnom, surtout à l'origine, maintenant, on s'en cache moins. Ils étaient tous amenés à devenir des notables, ces jeunes étudiants architectes. Donc ils ne portaient pas leur nom de famille, parce que d'abord leurs parents auraient trouvé ça extrêmement déplaisant. C'était un monde essentiellement masculin, faut quand même le dire, même si ça a complètement changé. Et tant mieux, hein, d'ailleurs. Mais avant, c'était plus compliqué. C'était des fortes têtes, c'était des femmes assez costauds, hein, qui avaient du caractère. Bon, mais je ne veux pas parler à la place des anciennes et des anciens. C'est un sujet qui a beaucoup évolué après 68, après la dislocation de l'école des Beaux-Arts.
J'ai l'impression que la fanfare des Beaux-Arts, c'est comme une grande famille.
Ce n'est pas une secte. C'est vraiment une activité sensationnelle qui nous a fait découvrir le monde, les autres. Nous sommes un certain nombre à y avoir un peu mélangé nos vies affectives. Et j'en connais certains, il y en a un qui arrive là, qui a aussi ses enfants qui l'ont rejoint. Donc peut-être que ça rejoint l'idée de famille. C'est qu'effectivement, il y a des générations de fanfarons qui se transmettent le témoin. Et parfois, de manière agaçante, les enfants jouent mieux que les parents. C'est histoire de famille.
Vous aussi, vous avez rencontré l'âme sœur en fanfare?
Oui.
Et elle rajoute quoi?
Alors, elle joue de la trompette. Elle jouait dans la fanfare de l'école d'architecture de Versailles. Et je me suis rendu, c'était en 1984, 1985, à un lieu festif sympathique où il y a une grande fête dans la nuit du 7 au 14 juillet qui s'appelle Pamplune. Et là, jeune fanfaron, j'ai vu une fanfare de filles qui faisait exploser la ville de Pamplune. Mon cœur s'est arrêté et ce fut une rencontre décisive, il y a 50 ans.
Et enfant, à la clé
comment dire, fanfare recomposée.
Respecter toutes les traditions, c'est vraiment l'opinion que le grand public se fait des Beaux-Arts.
Oui, c'est exact. Oui, nous avons une grande partie de folklore dans l'école.
Archive RTF, 7 décembre 1955.
Et vous connaissez déjà la fête traditionnelle du Rouge-Vin, où il y a les chars qui défilent dans tout le quartier. Il y a également le bal des Quatre-Arts, qui est bien connu du monde entier. Il y a aussi le gala de l'école, qui est beaucoup plus chic, plus smart, mais qui est quand même une fête. Et il y a évidemment toutes les fanfares des ateliers, dont vous avez un certain nombre d'exemples ici.
Enfin, c'est tout de même l'école, c'est pas uniquement des festivités
disons,
du chahut.
Non,
elle
pas
a d'abord un directeur, monsieur Interstellaire, membre de l'Institut, peintre fresquiste, que nous allons d'ailleurs retrouver tout de suite dans l'ancien hôtel des Bouillons, auprès de Jardins Romantiques.
Monsieur le directeur, combien y a-t-il d'élèves dans votre maison?
Environ 3000.
Qui se répartissent?
Environ 2300 architectes, 400 peintres, 200 sculpteurs et 100 graveurs.
Et vous pouvez loger tous ces gens dans votre école? Ce problème d'effectifs n'est pas pour vous un problème, justement?
C'est un très grand problème. Il était encore beaucoup plus ardu il y a une dizaine d'années. Mais malgré les constructions que nous avons édifiées depuis 10 ans, comme je vais vous dire, nous sommes encore trop à l'étroit.
Il faut se rappeler ce qu'était l'école des Beaux-Arts à l'époque. Avant 68, c'était les quatre arts qui étaient représentés, l'architecture, la gravure, la peinture et la sculpture. Les étudiants étaient dans des ateliers. Les ateliers étaient dirigés par un patron, donc architecte, sculpteur, un peintre, évidemment, selon les sections, et regrouper les étudiants, si vous voulez, après le concours d'admission, les regrouper de la première à la dernière année jusqu'à leur diplôme. C'est un système qu'on pourrait appeler vertical, au contraire d'un système universitaire comme il est maintenant en exercice, je dirais, à l'école, qui est un système plus horizontal où on travaille année par année. Quand vous étiez étudiant en première année, que vous étiez en train de plancher sur un tout petit projet, un abri de pêcheurs, un escalier entre deux rues, etc., les plus anciens passaient sur votre planche et vous corrigez, parce que évidemment tout ça se faisait à la main, et vous faisiez avancer votre projet. En contrepartie, les plus nouveaux travaillaient sur les projets des plus anciens comme petites mains, à dessiner, à poser des titres. C'était pas très très glorieux. Mais enfin, on apprenait le métier de collaborateur d'architecte, puis d'architecte, si vous voulez.
C'était une forme de compagnonnage.
Oui, oui. On travaillait énormément quand même, sincèrement, mais on faisait beaucoup la fête.
N'en parlons plus, mauvaise tête. Viens, va donc voir la femme trompante. Lui, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon.
On était constamment un peu les uns sur les autres. Donc, je me disais, on arrivait à l'atelier à 8h, 8h30 le matin. On n'en repartait pas avant 10h, 10h30 le soir, je dirais au quotidien. Chaque rendu important était l'occasion d'une petite fête. Et donc, les fanfares étaient là pour animer cela. Alors, vous dire que les fanfares étaient créés par des musiciens, non. Il y avait toujours un ou deux musiciens qui permettaient justement que ça fonctionne pour 80% de néophytes. Moi, je peux vous dire, je suis rentré à l'atelier, la fanfare de l'atelier d'avant était en train de disparaître parce que les étudiants étaient en train de passer leur diplôme. Et moi, on m'a mis un hélicon sur le dos et on m'a dit « nouveau, débrouille-toi ». On m'a dit « démerde-toi d'ailleurs, je vais le dire très franchement ». Et bon, moi je me suis pris au jeu, ça m'a amusé globalement, et le but c'était que la prochaine fête de l'atelier qui avait lieu au mois de novembre, la fanfare de nouveau de l'atelier, puisse jouer au moins 5 ou 6 morceaux en introduction de la fête. Donc c'était une forme de défi. Et donc les fanfares étaient absolument incapables de jouer sur une partition. Une partition telle que vous la connaissez, avec ses 5 lignes, sa clé de sol, sa clé de fa. Et donc forcément elle s'était inventé un système pour que les gens puissent jouer. Quand vous regardez les instruments communs en fanfare, en 3 pistons, et sur les murs, on avait dessiné la forme des pistons avec 3 T majuscules. Et donc le Do, les 3 pistons sont en l'air, c'est 3 T. Le Ré, vous avez le piston du milieu qui est descendu, et ainsi de suite. Alors vous imaginez la longueur des partitions, parce que c'était quand même, pour une note, vous aviez ces 3 T, il fallait répertorier, ce qui vous donnait d'ailleurs aucun sens de rythme non plus, il n'y avait aucune écriture de rythme. Et il y a le chef d'une fanfare dans les années 60, qui s'appelle la fanfare Octave Callot, qui a décidé d'écrire des partitions différemment, en écrivant chaque note Do, Do, Ré, Ré, Mi, Mi, en mettant une petite flèche montant vers le haut, vers le bas, pour si c'était un Do du bas ou un Do du haut, et en recoupant tout ça dans une mesure quand même, qui permettait à peu près de se repérer rythmiquement. Moi j'ai commencé comme ça.
Et ça marchait.
Alors, il m'est arrivé de montrer ça, parce que j'ai fréquenté quand même pas mal de musiciens, des vrais, de montrer ça à des musiciens qui sont ahuris quand ils disent ça. Mais comment vous faites? Et moi, je leur répondais toujours, mais comment vous faites pour lire vos hirondelles sur les fils télégraphiques que vous nous proposez? Mais c'est un peu des trucs d'architecte, ça. Habitués au dessin, on dessine. Et là, je peux vous dire, les fanfares modernes ne jouent plus comme ça, et jouent sur des vraies notes, des vraies partitions, avec une vraie écriture. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était l'idée de faire la fête et d'avoir comme appui un semblant musical.
Mesdames, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre les Charlodéon?
Attends, je suis plus ancienne, alors je vais commencer. Alors, avant les Charlodéon, moi j'ai rencontré la fanfare à Poitiers. Et les Charlodéon, on a un certain nombre d'anciens de Poitevin. On a fait des études à Poitiers. Même au départ, c'était plutôt au moins 50% des Charlodéon étaient des anciens étudiants de Poitiers qui sont venus à Paris. Et à Poitiers, il y a une tradition aussi au niveau des études, aussi de faire de la musique. Et il y avait une fanfare à Poitiers, donc moi j'ai commencé là-bas. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai retrouvé les Charlodéon parce que je les connaissais déjà d'avant, quoi. Et donc j'ai commencé en, je sais pas, 87. Donc ça fait un certain temps. Voilà. Moi je joue du trombone. Comme beaucoup de fanfarons, on apprend de façon autodidacte au départ, même si je faisais un autre instrument avant. Et puis depuis, je joue toujours avec eux. Je joue aussi ailleurs dans une harmonie, l'harmonie de Pantin. Là c'est plus classique, plus sérieux. Mais bon, c'est un mélange qui est sympathique. Et puis on est beaucoup à se connaître depuis très longtemps. Quoi. Et donc moi je ne suis pas architecte. Voilà. J'ai fait des études de psychologie, donc je suis psychologue. Donc je vis aussi avec un architecte.
Qui est Pierre-Édouard.
Qui est Pierre-Édouard, voilà.
Et vous, Claire?
Absolument, oui. Moi, je suis venue un peu par hasard. J'ai un voisin qui fait partie des Charlodéon, qui s'appelle Dimitri. On est voisins. Et il y a une quinzaine d'années, il m'a proposé qu'on monte une fanfare entre voisins. Donc, il m'a donné une basse, qui est un instrument avant, on peut l'appeler euphonium. Et voilà, on a commencé à jouer. Et petit à petit, on est devenu meilleur. Et un jour, on a décidé de venir jouer ici, avec donc, mon autre groupe, avec les Charlodéon. Et donc, c'est à ce moment-là que Pierre-Édouard m'a rencontré et m'a fait rentrer chez les Charlodéon. Donc, j'étais recrutée sur le tas. Et moi, je découvre tout cet univers-là, parce que je ne suis pas du tout architecte, je suis réalisatrice. Et je crois que je me plais bien, en fait. Je suis comme un petit poisson. Et quand on plonge dedans, on peut plus s'en passer. C'est toujours très joyeux. Enfin, le fait de se déguiser quand on est en représentation, on est toujours déguisé. On a des perruques, des lunettes, des costumes complètement incroyables. Ça fait partie aussi du jeu, en fait.
Est-ce qu'il y a des looks qui sont associés aux fanfares des Beaux-Arts, Pierre-Édouard Caloni?
Oui, dont un est extrêmement à la mode actuellement, puisque les premières fanfares des Beaux-Arts étaient toujours habillées avec une marinière, un gilet rayé. Bon, au départ, ils portaient sur le gilet rayé un nœud papillon, une redingote, un chapeau melon et un pantalon noir. Puis ça, ça a beaucoup dévié en gardant la marinière avec un pantalon blanc et un canotier. Après, les fanfares, donc voulant se démarquer les unes des autres, ont diversifié leur déguisement ou leur tenue ou leur costume. Je pense à une, les cosmonautes, qui sont habillés toujours sur une base de rouge. C'est pas des uniformes, hein. Quand on décide une soirée, comment on s'habille, ou une soirée, enfin n'importe quel événement, comment on s'habille, on se donne un thème et les gens viennent sur le thème. Mais surtout pas d'uniforme. Hein. On n'est pas une harmonie municipale, on n'est pas une fanfare des militaires, on n'est pas non plus un grand orchestre. Donc c'est pas un uniforme, mais l'important c'est de garder l'esprit. Je pense à une autre fanfare qui s'appelle la fanfare Boulamatari ici et Tintin, qui, elle, est toujours avec un gilet en jean, bordé de fausses fourrures, avec plein de bijoux tape à l'œil. Et chacun a décliné ça à sa manière.
Si on va à un mariage, on va trouver une tenue qui va faire un effet un peu incroyable et impressionné. On a vraiment, enfin, moi, j'ai un garage rempli de déguisements, j'ai multitude de de chapeaux, de perruques, de robes, de manteaux, voilà, qui sont adaptés. Et on va les chiner en général. Voilà.
Et j'insiste, si on doit être dehors, il n'est pas question de venir jouer en tenue de tous les jours. C'est pas imaginable.
On n'est plus, mine de rien, on n'est plus jeune étudiant, mais on reste quand même, il me semble, un peu jeune dans notre esprit. C'est ça qui fait qu'on a quand même toujours des contrats, quand même. Même si nous, on n'est pas rémunérés, ça nous permet surtout de faire des fêtes et des voyages. Donc, on a des amis qui sont à Lyon, à Montpellier, à Arles. Donc, c'est l'occasion de les rencontrer. Voilà, donc, il y a des échanges.
Il y a vraiment une fraternité, une amitié au sein de notre fanfare, en tout cas. Mais avec les fanfares amis aussi, ouais.
Ah, ça va vite.
Ici, on se trouve dans le quartier du Faubourg Boutonnet, la rue du Faubourg Boutonnet.
À Montpellier.
À Montpellier.
Francis Potentier, je peux vous appeler Popo ? C'est votre surnom de fanfaron ?
C'est mon surnom de fanfaron, ouais. En effet.
C'est quoi vos premiers souvenirs de fanfare, gamin, Popo ?
Adolescent au lycée Joffre, on s'occupait à quelques-uns de la, ce qu'on appelait la copée, qui organisait le ciné-club, le club échec, le ci, le mi, plein de trucs, plein d'activités. Donc, quelque part, on représentait la vie du lycée. Et là-dessus, nous tombe sur le coin de la cafetière la réforme du père Debré, qui a inventé la fin du sursis du service militaire pour les étudiants. Donc, nous, on était remontés comme des pendules contre cette action. Là-dessus, on est venu nous voir. C'était donc en 69-70. Hein. Les syndicats sont venus nous voir pour nous dire « Ce que vous faites à l'intérieur du lycée, c'est bien, mais il faut aller dans la rue. » Et nous, mai 68, c'était la veille. Et ça bagarrait ferme, pas à Montpellier, mais à Paris. On ne se voyait pas là-dedans. Et un copain de classe a dit « Mon frère vient de rentrer en section archi aux Beaux-Arts. Ils ont monté une fanfare, on n'a qu'à les prendre, on les met en tête de cortège, et ça sera bien. » Ainsi fut fait, et j'ai eu mon premier contact avec cette fanfare-là, qui un jour ou l'autre allait s'appeler Fernand Boutonnet. Et cette place ici, c'est quand même une place emblématique de début de l'histoire des fanfares de rue de Montpellier, car ça s'est fondé à travers un bistrot qui est là à l'angle, rue du Faubourg Boutonnet, et qui s'appelait à l'époque Chez Béru, et qui était mythique de tout un esprit libertaire de gauche, enfin tout ce qu'on veut, de l'époque.
Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme tronc. La femme tronc qui est si bonne, et maman, que m'importe les trombones, je veux jouer de l'hélicon.
Alors, l'époque en question, c'était juste après 68, et donc on peut comprendre tout ce qui pouvait se passer autour de ces événements. Et la fanfare de l'École des Beaux-Arts de Montpellier, section architecture, s'est montée à ce moment-là à travers une génération de gens qui avaient eu leur bac, grosso modo, en 68. Et nous, quand on est rentré à l'école d'archi, à la rentrée scolaire 72, tout naturellement, on allait également dans ce bistrot où il y avait une très chaude ambiance. Alors, cette fanfare, Fernand Boutonnet, elle avait en mire le fait d'aller au Feria, en particulier la Feria de Nîmes. Et on logeait dans un grand mas où il y avait des jeunes gens qui avaient à l'époque 14, 15, 16, 17 ans et qui étaient admiratifs de notre manière de passer du bon temps à s'amuser. Et eux-mêmes ont fondé une fanfare qui s'est appelée les Tata Gabi. Et ça a généré deux fanfares, une célèbre à Lyon qui s'appelle les Gabinets, les petits de Gabi, et une fanfare de Nîmes, qui est très célèbre à Nîmes et qui a marqué le territoire nîmois, qui s'appelait Les Bidochons, parce que la BD venait de sortir. Et quand les Bidochons ont arrêté de jouer, à quelques-uns, on s'est dit « c'est trop con », en 95 donc, on a rebondi et on a créé les Cadors. Pourquoi les Cadors ? Pas pour dire qu'on est les plus beaux, les plus forts, mais parce que c'est le chien des Bidochons. si cette fanfare-là s'était appelée les Tintins, eh ben on se serait appelé les...
Milou.
Ah, il a tout compris.
On va rejoindre les Cadors ?
Oui, d'accord. Et on va prendre la rue du Faubourg Boutonnet. On va la descendre un petit peu.
On dit Cador un jour, Cador toujours. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment viré personne. En fait, les gens qui n'ont pas trop les affinités avec nous, ils s'en vont tout seuls. Au bout d'un moment, ils comprennent. Alors, ben, moi, c'est Rémi, donc je suis trompettiste depuis le début des Cadors.
Donc, Dirk, sous bassophone, c'est les Cadors.
Marie, saxophoniste.
Popo, sous bas, également.
Au début, on était une douzaine. Maintenant, on est plus de 100. Mais bon, après, en membre actif, on est quarantaine, on va dire.
Avec essentiellement des étudiants en architecture ?
Alors, il y en a, mais nous, on est une fanfare de province. Donc, en fait, c'est un mélange. Il y a aussi bien des enseignants que des professions médicales, des informaticiens, etc. Donc, il y a pas mal de métiers. Popo, ici présent, est architecte. Et dans les Cadors, il y a 3-4 architectes. Mais nous, on a diversifié davantage.
Les Cadors, on est quand même reconnu dans le milieu des fanfares des Beaux-Arts sur Paris, car on est une des rares fanfares à être régulièrement invité au concours. Et c'est quand même quelque chose d'important dans le milieu des fanfares dits des Beaux-Arts, c'est la présence de ce concours qui fédère beaucoup de monde autour de cet événement. Le concours a lieu, grosso modo, tous les 4 ans dans la cour de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, qui se trouve qu'est Malaquais, et qui donc a enfanté la première fanfare de Paris. Et quelque part, cette reconnaissance, nous, on l'a. Et la preuve en est, c'est que, au tout début des Cadors, ils nous ont invités à participer au concours de 1996-97, et on a gagné.
Les grillons, les crevettes, les taureaux, les chevaux, et puis, le sud, les Cadors!
Le sujet du concours, c'était les bains d'Apollon, et on a fait une ode de Palavas-les-Flots, ça fait rire tout le monde, Palavas-les-Flots à Paris.
On a fait une caricature un petit peu de comment on voyait, nous, le Sud, en montant un morceau de Dalida, venait d'avoir 18 ans, en mettant en scène un membre émérite des fanfares Beaux-Arts qui s'appelle Monsieur 12 degrés 5, qu'on avait habillé en torero, on avait aussi notre propre Dalida en robe lamée avec perruque, et on allait offrir le soleil au jury à la fin, et en englobant le public avec un grand filet de pêche, ça se passait à Versailles. Enfin, comment ça marche ? Alors, effectivement, il n'y a pas de chef. Enfin, il y a un président. Donc, on fait des élections, pseudo-élections, qui peuvent être avec des bourrages d'urne à des moments, mais ça reste quand même relativement démocratique. Chaque année, le bureau change. Donc, il n'y a pas d'usure non plus. Il n'y a pas non plus de lutte véritable pour un pouvoir. Il y a un turnover, tout le monde prend des responsabilités à tour de rôle. Il n'y a pas aussi de paiement des musiciens, c'est-à-dire tout va dans une caisse et est redistribué en fonction des besoins. Ça peut même aller jusqu'à payer des nounous pour que certains puissent venir à la répète, comme ça peut payer un arrangeur, parce qu'on a parlé de ce qui nous rapprochait des Fanfares Beaux-Arts, mais on peut dire aussi ce qui nous distingue des Fanfares Beaux-Arts, notamment la première chose qui me vient, c'est les saxes. C'est-à-dire qu'en fait, en province, on accepte beaucoup plus facilement les saxes. Quand je dis les saxes, c'est les bois, c'est-à-dire les clarinettes, ténors, altos, que les fanfares pures parisiennes archi, qui sont plus dans la percussion et donc les embouchures cuivre, et donc souvent fonctionnent qu'avec sous-bassophone, trombone, trompette, tuba. Donc quatre voix, alors que chez les Cadors, nous, on a diversifié ça jusqu'à avoir sept pupitres.
Jusqu'à avoir un banjo.
Oui, effectivement, qui est pseudo-sonorisé, parce que nous, on est contre la sonorisation. Donc en fait, il s'est trafiqué un système avec un mégaphone branché sur son banjo.
Je voulais rajouter ce qui est quand même incroyable, moi je suis sur plusieurs fanfares, c'est de voir comment des musiciens, des fanfarons, arrivent au début, ils ne sont pas musiciens, ils ne savent pas jouer, et petit à petit, comment ils vont arriver à progresser, comment ils vont arriver à s'accrocher à la musique, même à savoir lire des partitions au fur et à mesure par la dynamique qui est donnée par cette pratique d'ensemble. C'est-à-dire, c'est autre chose que j'apprends l'instrument tout seul dans ma chambre, dans mon salon. Là, c'est autre chose qui se passe. C'est-à-dire, j'arrive, je suis dans une fanfare, j'ai trouvé un instrument. Ah ben, il faut que je me lance et je vais commencer à jouer. C'est-à-dire, quand même, ça nécessite, je ssais que pour les Cadors, c'est ça, c'est d'accepter qu'il y en ait qui fassent des canards, bien sûr, et qui débutent. Et de voir cette progression, c'est assez extraordinaire.
Et sinon, aussi, dans le public, on a souvent des tout petits enfants qui se mettent à danser comme s'ils étaient à la Star Academy, et d'une. Et de deux, ça m'arrive très fréquemment de faire jouer un gamin de 4 ans, mon instrument, plus l'embouchure est grosse, plus c'est facile d'en jouer. Donc, il suffit de faire... et ça marche. Il y a un son qui sort de l'instrument. Le gamin est effaré d'entendre ce gros bruit qui sort de 70 cm au-dessus de sa tête. Il est scotché, quoi. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. Et oui, c'est toi. Donc, ce contact avec le public permet ça. Un orchestre de rock qui joue sur scène, ça le fait pas bien, ça. Nous, on est vraiment au milieu. C'est la proximité avec le public qui peut être la caractéristique définitive de notre manière de jouer. Et on joue face au public. Si on prend les bandas, ils jouent en rond, et ils tournent le dos au public, et s'il y a quelqu'un qui rentre dans le rond, ils ne sont pas contents. Donc, ils tournent le dos au public, c'est ballot.
La proximité avec le public, on le vit régulièrement dans l'année, et en particulier pendant le festival des fanfares ici sur Montpellier, où on invite tous les ans une quinzaine à 20 fanfares. Et c'est là où on rencontre le public vraiment fidèle à ce moment-là, à proximité, avec un certain délire partagé avec le public.
Il y a plusieurs publics. Il y a un public de nuit. Il y a un public de jour, il y a un public de village, il y a un public de ville. C'est vrai que là, on est co-organisateur en fait, du festival de fanfare de Montpellier qui a lieu début juin. C'est des milliers de personnes, beaucoup d'étudiants. Et comme dit Marie, tous les âges représentés. À un moment donné, on organisait aussi un rassemblement à Nîmes avec l'Arène des fanfares, qui était une association multi-fanfare aussi sur Nîmes, à la Feria des Vendanges. Et on organisait des concours et on avait fait la descente au Flamby sur plat. Et donc il y avait des représentants de chaque fanfare qui devaient glisser en salomant entre des poteaux qu'on tenait comme ça, avec un Flamby au bout d'une torche. Il ne fallait pas qu'il tombe le Flamby et il devait gober le Flamby en arrivant du salomon. On aime bien ce genre de petits jeux.
direction Lassigna, où l'on retrouve la fanfare des Beaux-Arts, les Charlots-Déon.
Marc-Antoine, est-ce qu'il y a pour vous un lien entre les fanfares des Beaux-Arts, telles que les Charlots-Déon, et puis les bandas qu'on retrouve dans le sud-ouest, ou un peu plus bas, du côté de Bayonne, d'Aix?
Étant bordelais, nous avions un très chouette lien, puisque plusieurs membres de la fanfare jouaient à Mont-de-Marsan ou à Parentis-en-Born dans les bandas. Il y avait un lien amical, affectif, etc. Et 25% du répertoire partagé. Les passes doubles.
Nos bases, nous, c'est qu'on allait quand même au moins deux ou trois fois par an dans les férias. Dans les férias de Pamplune, de Nîmes, de Arles. On avait notre répertoire Beaux-Arts, mais moi j'ai appris à jouer tous les passodobles et tous les morceaux, et donc on rencontrait les bandas. Voilà. Alors on n'est pas tout à fait pareil, parce que les Beaux-Arts, on est toujours un peu plus insoumis, on va dire, un peu plus désobéissant peut-être que les bandas, mais et puis un peu plus potache, voilà, mais bon, c'est le même esprit. Hein,
Les bandas sont institutionnelles, puisqu'elles sont subventionnées par une mairie qui leur fournit des chamars. Quand ils vont dans une autre ville, on va les loger, peut-être dans un gymnase. Enfin, les choses sont organisées de mairie à mairie, alors qu'effectivement, nous, on débarquait avec un sac de couchage. On n'a jamais été invité. Si on avait attendu, on serait resté dans nos ateliers d'école d'architecture. Et nous étions un petit peu les pirates. Quand il y a une bande à joue, eh ben, y a un repas qui est prévu. Et les fanfares, ben, nous, on n'avait rien. Et on se faisait nos sandwichs où on bouffait des nems.
Ça marchera. Oui, mais on va être un peu bonne.
Qu'est-ce que vous êtes en train d'installer?
On regarde pour ce soir. Hein.
C'est-à-dire
ben, on regarde si la télévision fonctionne pour regarder le match ce soir.
Avec match de rugby?
Oui, ben, France, Écosse. Hein. Ouais. Mais enfin là, ça tombe qu'il y a une répétition en même temps, donc on va en profiter.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Cadre bancaire.
Cadre bancaire?
Ouais, ça n'a rien à voir.
Et vous jouez de...
Je suis tubiste, hein, donc du tuba. Moi, je suis originaire de Vic-Fezensac. Je voyais le groupe dont je jouais aussi dans les arènes de Vic-Fezensac. Et donc, le style de musique me plaisait bien. Et donc, la qualité également musicale. Et je suis toujours dit, quand j'étais jeune, que le jour où j'aurai le temps d'intégrer cette formation, je le ferai. Et donc, l'occasion s'étant présentée, en 1999, voilà, j'ai intégré le groupe. Hein.
Votre prénom ?
Pierre.
Merci Pierre. On se trouve à Éoz, qui est un bourg de combien d'habitants, Mathieu Larue ?
Il y a 3700 habitants.
Et on est dans le local des Armagnacs d'Éoz.
Tout à fait.
Mathieu Larue, chef de la banda musicale Les Armagnacs.
C'est une banda mythique de la ville et du département et au-delà, qui est née en 1954. Donc on a fêté l'année dernière nos 70 ans.
Dans votre local, il y a plein d'affiches et de photos qui sont accrochées au mur. Donc il y en a une où vous êtes en rouge avec des canotiers sur la tête et l'autre en bleu.
Le point commun entre les deux photos et au niveau des tenues, c'est le fameux canotier qui représente le groupe quasiment depuis le début de sa formation.
C'est un petit clin d'œil à Maurice Chevalier.
Oui, voilà, c'est la petite touche Frenchie qu'on pouvait apporter à l'époque lors des déplacements en Espagne.
Et ce nom, Mathieu Larue, les Armagnacs d'Éoz, pourquoi les Armagnacs?
On a récupéré ce nom parce que symboliquement, il représente toute une région et puis toutes les qualités de cette eau de vie. Et plus on vieillit, plus on se bonifie.
C'est votre cas?
Il paraît.
Si on continue à faire le tour du local, il y a d'autres affiches emblématiques ou pas qui racontent un peu l'histoire de cet orchestre?
Il y a beaucoup d'affiches de tauromachie, de corrida, des grandes arènes de France et quelques-unes d'Espagne aussi, puisque c'est un groupe qui s'est très vite spécialisé dans le répertoire taurin pour accompagner les spectacles taurins de toutes sortes. Donc, à une époque dans les années 50 où les grandes arènes n'avaient pas forcément une harmonie municipale au point pour jouer ce genre de répertoire et pour accompagner ce genre de spectacle, les Armagnacs s'étaient spécialisés un petit peu là-dedans et faisaient le tour de toutes les grandes ferrières du sud-ouest d'ailleurs.
Et vous alors ?
Moi, c'est Charles. Cette musique espagnole m'a toujours passionné. Parce que je le connaissais depuis gamin, j'ai vu les Armagnacs évoluer. Et puis, je ne sais pas, je dois avoir des gènes. Mes arrière-grands-parents étaient originaires de l'Aragon. Et tout petit, j'aurais bien aimé apprendre la musique, mais ma famille était assez pauvre. Il n'y avait pas d'école de musique sur place. Et donc, il était difficile pour moi d'apprendre la musique. Et déjà à 10 ans, je m'étais fabriqué une guitare avec le bricolé. Et un jour, le père de musicien qui faisait les balles dans mon village vient dîner le soir dans ma famille. Et moi, je lui sors ma guitare, je lui joue un tube de l'époque d'Enrico Macias, je ne sais pas qui, dans les années 60. Et il dit à mon père, mais ce gamin, là, faites-lui apprendre la musique, comment ça, vous ne voyez pas. Et puis non, j'ai attendu, 50 ans pour faire le conservatoire à Canada Libre.
Donc vous êtes saxophoniste.
Voilà, mais bon, c'est vrai qu'en démarrant tard comme ça, c'est pas simple, parce qu'on a une certaine pudeur, une certaine modestie, qu'un gamin qui a appris très jeune, lui, il fonce. Nous, on a une appréhension, parce que j'ai commencé trop tard. Mais bon, je me régale. Ici, je me régale. Les Armagnacs, c'est une famille, c'est une grande famille. Il y a une amitié, il y a une convivialité. On se serre les coudes. Voilà, alors, le côté taurin, bon, moi, je suis pas un fanat du côté taurin, mais bon, j'aime quand même le côté passé haut, tout ça, tout le rituel d'une corrida. Bon, c'est vrai que ça prend les tripes, quelquefois. Bon, il y a des moments forts. Moi, j'ai vu des corridas, vraiment, où c'était un sacré ballet, quoi. C'est de tragédie grecque. Puis la musique arrange tout. Et puis quand on finit une corrida, qu'on fait 7 ou 8 morceaux pendant que les gens quittent les arènes, on voit que les gens, on les rend heureux. Et combien de fois on nous a dit, oh, nous, on ne vient pas à la corrida, mais on vient vous écouter. Donc c'est bon signe.
Hilario, c'est quoi votre lien avec l'Espagne, les Armagnacs ?
Le répertoire, déjà. Dans la multitude de répertoires que pourrait jouer une formation comme la nôtre, nous, on a vraiment axé sur ce répertoire espagnol. Un répertoire qui est extrêmement riche, extrêmement varié.
Ils sont quoi, des passodobles ?
Oui, alors les passodobles, c'est dans la ligne directe des pas redoublés. Donc des marches à vocation militaire historiquement pour faire défiler les troupes. Et puis à la fin du 19e siècle, le pas redoublé a été introduit au sein d'un spectacle taurin pour faire défiler les toreros qui a rentré dans l'arène. Et donc c'était une des premières fois que le pas redoublé mettait les pieds dans une arène. Et puis les compositeurs se sont mis du coup à écrire des passodobles avec d'autres caractères. Le côté martial, le côté rigueur militaire va laisser la place à d'autres sentiments, le côté suave, féminin de la tauromachie, ce qu'on appelle le temple, la lenteur du geste, de la passe. Tout ça va s'intégrer dans le passodoble tout en conservant la forme d'une marche. Alors nous, ici aux Armagnacs, on a pris cette ligne de rester sur la tradition et ce premier répertoire. On ne joue pas ou très peu de choses plus modernes, plus récentes, des derniers tubes qui viennent de sortir. On laisse ça à d'autres formations, ce qui fait notre particularité.
Vous appelez tous les trois ?
Alors moi je m'appelle Johanna,
Isabelle,
Céline. Moi quand je suis rentrée aux Armagnacs, moi j'étais toute seule, la seule fille en fait. Et après Johanna.
Au milieu de ?
Ouais, trentaine de garçons. Après c'est bien parce qu'on est bien chouchoutés en tout cas, la seule fille, voilà. C'était très bienveillant en tout cas avec moi.
Moi je me souviens d'une sortie, on devait être
une vingtaine à une sortie. Et puis en fait, c'est le public qui m'a fait remarquer que j'étais la seule. Des gens du public qui viennent me voir me font mais ça va ? Je dis oui, pourquoi ? Il me dit bah, parce que vous êtes la seule femme. Et là, je me suis retournée et j'avais pas remarqué en fait. En fait, on est avec une bande d'amis, donc on est avec des copains, on est tous ensemble, quoi, tout simplement. Mais ça n'a jamais été fermé aux femmes en tout cas. Moi, j'ai découvert la corrida par la musique, pas avant.
J'ai pris goût ?
Ouais. Ça peut sembler improbable, c'est une rencontre. De toute manière, c'est simple, la première fois, on y va. Soit il y a quelque chose qui se passe, soit au contraire, on ne peut pas. Et moi, il s'est passé quelque chose. Et puis après, ça m'a donné envie de m'y intéresser et de comprendre en fait ce que je voyais et ce qui s'y passait.
Mathieu Larieux, quand on assiste à une corrida, donc il y a d'un côté le taureau, on va dire que c'est l'élément central, il y a le torero, et puis il y a la musique. Et la musique, elle joue quel rôle en fait ? Comment elle s'intègre à la corrida ?
Le torero est là pour, à travers sa technique, essayer de proposer au public quelque chose d'artistique avec le taureau, avec la bête à l'état, sauvage à l'état pur. Et nous, on est là à côté pour essayer d'apporter le petit plus, je dis souvent, la touche poétique à ce qui se passe, sans prendre le dessus. Il ne faut pas que le public oublie ce qui se passe en bas, que quand même une vie se joue en bas et qu'en haut il y a de la musique. Si on prend le dessus, c'est raté, quoi. C'est le président, celui qui préside la corrida, qui décide si la musique doit être lancée ou pas. Et donc des fois, il peut ne pas y avoir de musique. Et si elle y est, c'est que ce qui se passe en bas, c'est bien.
Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre, vous, les Armagnacs, alors ?
Alors, je ne suis pas venue aux Armagnacs pour les arènes, pour les corridas. Moi, je suis venue parce que je suis amoureuse de la musique. Et depuis toute petite, je suis baignée dans cette musique à consonance un peu espagnole, cette musique de fête. Je suis originaire de Vic-Fezensac, juste à côté. Donc moi, j'ai appris la musique là-bas. Donc, il fallait aller aux arènes. On n'avait pas le choix quand on jouait avec l'harmonie. Et cette musique me plaît, tout simplement. Mon grand-père m'a acheté des cassettes, des disques, et voilà, j'ai été baignée là-dedans. Aux arènes, c'est un peu plus compliqué. J'amène un livre, je discute avec les copines, je regarde le matador. Je m'en vais, parfois, aussi. Je m'en vais en pleurant, aussi. Ça arrive, voilà. Mais je reviens toujours.
Parce que c'est trop dur, parce que quoi ?
Ah oui, parce que c'est trop dur, parce que je trouve qu'il y a des choses injustes. Mais j'ai appris à comprendre.
Et la musique, elle oriente le cours de ce spectacle quand même.
Oui, oui, tout à fait. Alors,
même si c'est un peu cruel quand même.
Elle peut aider le torero à se calmer, à se poser en suivant le rythme de la musique, en ralentissant un petit peu. J'ai déjà vu des jeunes toreros un peu agités, qui faisaient des gestes saccadés. Et puis quand la musique démarre, ils se posent, ça leur donne une certaine lenteur. Et en suivant la musique, ça les aide. Donc on peut peut-être par ce biais-là sublimer ce qui se passe en bas.
C'était Fanfare et Fanfaron aux Beaux-Arts. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Benjamin Hu. Avec Pierre-Édouard Calony et des membres de la fanfare Les Charlots-Déons, Gérard, le patron du café La Signa à Paris, Rémi Donadille, Francis Potentier, Dirk et Hélène de la fanfare des Cadors de Montpellier, Mathieu Larieux et les membres de la banda musicale Les Armagnacs. Texte lu par Jacques Bonafé. Prise de son, Sandrine Malon, Frédéric Kérou et Éric Boisset. Mixage, Manon Houssin. Attaché de production, Anaï Morales et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Recherche INA, Sylvia Monduc. Et un grand merci à Fanny Leroy.